Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Le lendemain, nous sommes toujours à Guadalajara. Le lever, alors je regarde de ma fenêtre la ville. C'est beau, le lever du jour. Je vois des gens qui ont le dos courbé par le froid. Alors je vous en ai parlé. La veille, on a vu des sans-abri, des gens qui devaient certainement passer la nuit dehors. Alors le matin, moi, de la fenêtre de ma chambre où j'ai dormi à la chaleur, eh bien, j'aperçois des gens qui ont le dos courbé par le froid. Vous savez, le corps parle. Ce n'est pas seulement l'éternuement, ce n'est pas seulement les étourdissements ou la pollution, là, mais le dos courbé. Le dos courbé, on marche tranquillement. Alors, c'est une attitude corporelle qui signifie quelque chose. On a froid. D'autres que je vois sont sur un banc où ils ont passé la nuit avec leur téléphone portable. Oui, je vois. Je vois quelqu'un qui a son téléphone portable, comme si c'était une sécurité, comme si c'était le lien qu'il a avec d'autres personnes. Toute cette humanité, dont une grande majorité est dans la pauvreté du dehors. Que de gens sur la planète ne dorment pas dans un lit? Est-ce qu'on pense à cela? Nous, la plupart, nous avons notre maison, notre appartement, notre chambre, nous avons au moins un lit. Mais pensons quelques secondes, que de gens sur la planète ne dorment pas dans un lit? Alors je ne peux m'empêcher de laisser monter ces questions intérieures, des questions de partage, de justice, de vie, de culture, des questions de population, de ville, de trottoir, de malade, de maladie. On ne peut être insensible quand on voit de telles réalités. Et laisser monter en nous les vraies questions. Et les vraies questions, c'est: comment se fait-il que ce n'est pas moi qui est sur ce banc? Comment se fait-il que ce n'est pas moi qui ai passé la nuit dehors avec ce portable à la main pour au petit matin essayer d'appeler quelqu'un pour avoir des nouvelles ou en tout cas dire où je suis? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Ça me rappelle ce que le pape François dit parfois lorsqu'il rencontre des prisonniers. Comment se fait-il que ce n'est pas moi qui est à votre place? C'est audacieux pour le pape de dire cela. S'il avait été dans les mêmes conditions, c'est ce qu'il veut dire au fond. Et quand il se présente, il leur dit: je suis un pécheur, pardonné, constamment sous le regard de la miséricorde de Dieu, moi aussi j'ai des fautes. Moi aussi, j'ai fait des choses. Moi aussi. Toute une dose d'humilité pour dire cela. Alors, on se pose ces questions. Je pense que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas de s'apitoyer non plus. Ce n'est pas de faire une sorte d'analyse etc. Là. C'est tout simplement de prendre conscience que l'humanité, et dans l'humanité, il y a des gens qui souffrent, il y a des nations qui souffrent, tout ce phénomène des migrations actuellement. C'est incroyable de voir cela. Des millions de personnes en déplacement, chaque jour, qui risquent leur vie, parce que la terre sur laquelle elles ont grandi n'est plus apte à les garder, pour toutes sortes de raisons. Tout a été détruit. On se tue à cœur de soir, à cœur de jour, à cœur de nuit. Alors, première petite méditation du matin, en regardant dehors, en voyant le réel, ce réel qui m'est montré. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Sur le grabat de branchage, celui qu'il avait confectionné là-haut sur la montagne pointue pour la fameuse descente, il allait l'amener à l'église. Le brouillard n'était pas dissipé, ni le soleil levé. Petit-Jean allait entrer et lutter encore une fois, encore, dans ce rythme que lui imposait la dame de la montagne. Il craignait, par expérience, la foule. Soudain, elle lui rappela.
« Où est ta jeunesse, Jean ?»«
Je ne suis pas vieux !»
« Tu as peur, Jean. »
Il n'aimait pas ces paroles, qui en cachaient d'autres moins intéressantes et qui l'étouffaient. C'était vrai. Il avait peur. Il poursuivit.
« Je connais un jeune homme qui, un jour, a bravé tout son village pour révéler son rêve, à ses risques et périls. »
Tout de suite, il revit la scène dans la clairière, et l'estrade de laquelle il avait jeté sa peur sur eux tous en montrant son rêve. « Pourquoi les peurs reviennent-elles? Ne serons-nous jamais tranquilles ? » demanda-t-il.
« Les peurs sont tout aussi effrayantes les unes que les autres, Jean, mais pas plus. »«
Mais comment ne pas reculer ? »
Prends toujours ta dernière peur, puis marche-lui sur la tête, et ensuite va pour affronter l'autre.
Mais justement, sa dernière peur était celle qu'il devait affronter. Comment pourrait-il lui marcher sur la tête ?
Allons-y, je suis tes yeux,
lui dit-elle. Il n'y avait plus de place dans la petite église Sant'Antonio. Les portes étaient tout grandes ouvertes sur le brouillard. Jusque sur le perron, il y avait des gens qui cherchaient à voir et entendre ce qui se passait à l'intérieur. Le curé était pâle comme au lendemain de la gifle. Clarisse la folle était étendue, comme dorment les anges, à la vue de tous. C'était le village qui, cette fois-ci, avait couru autour d'elle. On s'était approché pour la voir de près maintenant qu'elle ne bougeait plus. Dans les dentelles du curé, elle était la prêtresse du jour, le corps tourné vers le ciel, rassemblant tous ses corps tournés vers la terre. Mademoiselle Eugénie, la bibliothécaire, s'était placée au jubé, au milieu des jeunes qu'elle materait en cas de turbulence. Monsieur le maire s'était imposé dans le banc traditionnellement réservé aux marguilliers. Qui y était déjà. À cause de lui, il serait mal à l'aise et coincé tout le temps de la cérémonie. Les riches, cette fois-ci, étaient arrivés les premiers, usant du privilège de liberté qui prévalait à l'église. En effet, le curé avait toujours refusé de céder aux pressions et de vendre les places. « On n'achète pas la place que Dieu nous donne !» répétait-il. La chorale se mit donc à chanter son cantique une fois de plus, enterré par l'assourdissant harmonium. Lentement,
Le brouillard avait aussi envahi l'intérieur de la petite église Sant'Antonio. Tous les regards étaient désormais tournés vers l'avant. On scrutait les moindres gestes du curé. Tout à coup, après le cantique, un bruit venant de l'extérieur fit courir des murmures dans toute l'église. Le curé gardait les yeux fermés. Il priait. Le regard de la foule changea donc de direction, et l'on vit entrer par la grande porte un grabat tiré par Petit Jean, le vieux Joseph le soldat, le charpentier et le père du turbulent gardien de moutons. Quand on vit que c'était la dame de la montagne, un étrange frisson se répandit comme une vague dans toute l'assemblée. Ils étaient tous coincés entre Clarisse la folle et celle qu'ils n'admiraient plus, l'étoile sans éclat. Le curé proclama l'évangile. C'était encore au sujet des oiseaux paresseux, que Dieu gâte chaque jour, et des somptueux vêtements du roi Salomon, mieux habillés que l'herbe. Allait-il encore, à temps et à contre-temps, tenter de le faire entrer, cela, dans la tête? Les gens s'étaient mis à penser bien plus fort que le curé ne parlerait. Ce dernier alla donc près de la dépouille de Clarisse la folle, et se mit à en faire le tour, en récitant par cœur d'étranges paroles. L'assemblée, laissant là ses pensées toutes faites, s'étirait pour voir et entendre. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron. Thank you.